Frères et sœurs, bonjour. Nous voici arrivés maintenant à la fin mai 2020. Et ce jour, donc le 31 mai, dimanche 31 mai, est un jour un petit peu exceptionnel pour nous, puisqu'il est question de la Pentecôte. Pour beaucoup de gens, la Pentecôte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pour certains en tout cas, un week-end supplémentaire, un week-end de 3 jours. Vous savez, en France, on aime beaucoup le mois de mai. Surtout quand on est salarié, ouvrier, on aime ce mois de mai parce que c'est le mois où il y a le plus de fêtes dans l'année et on le programme bien à l'avance entre les week-end de l'Ascension, quand le 1er mai, le 8 mai tombe soit un lundi ou un vendredi, eh bien on est content. Et puis si la Pentecôte tombe aussi au mois de mai, eh bien on est content aussi parce que ça fait 3 jours supplémentaires, en tout cas pour certains, puisque il y a quelques années, ce jour qui est toujours un jour férié, mais qui est plutôt un jour chômé, est remis en cause. Mais pour certains, en tout cas, c'est le week-end et ça demande, ça, il n'y a pas d'autre explication. Mais pour nous, chrétiens, ça a une autre explication. Et cette autre explication se trouve dans Actes, au chapitre 2, et il nous est expliqué, en tout cas, ce qu'a été le début de l'Église, l'arrivée du Saint-Esprit parmi les disciples et parmi les apôtres. L'Écriture nous dit qu'ils étaient assemblés dans un endroit qui s'appelait la chambre haute, un local où même ils étaient assis, donc on peut penser à un bâtiment qui était grand mais moyen, qui était, oui, on peut dire moyen, pas petit mais moyen. Et en tout cas, les disciples étaient là et ils se posaient la question. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Combien de temps devons-nous rester à attendre et attendre le Saint-Esprit qui avait été promis par Christ ? Mais de quelle manière il arriverait ? Dis-moi, Pierre, est-ce que tu sais quand est-ce qu'il viendra ? Et toi, Matthieu, qu'en penses-tu ? Et toi, Jean, as-tu une idée ? Les disciples se posaient des questions. Ils n'avaient pas de réponse. Et pourtant, il nous est dit, en Actes chapitre 2, verset 2, que tout à coup, un bruit a été entendu qui ressemblait à un vent impétueux. Le Saint-Esprit est arrivé comme des langues de feu sont venues sur la tête de chacun des disciples qui étaient là. Et voilà ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Les disciples ne s'y attendaient pas, en tout cas de cette manière-là, mais pas seulement les disciples. Il nous est dit que la multitude qui était à Jérusalem à ce moment-là accoura. Il se passait quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui faisait peur, probablement, quelque chose qui, en tout cas, laissait entendre se posait des questions, même pour la multitude. Et alors, lorsque la multitude est arrivée, et qu'elle a entendu ces Galiléens, qui parlaient en diverses langues, il nous est dit, par exemple, qu'il parlait en mède, en arabe, en crétois, de toutes les langues qui existaient. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il que des Galiléens parlent maintenant dans notre propre langue ? Mais où ont-ils appris ça ? Où ont-ils su ? Où ont-ils connu ce miracle ? Au point que certains même se sont... on peut dire moquer un petit peu des disciples. Ils ont dit, mais ils sont complètement sous. Et il a fallu que Pierre élève la voix, l'Écriture nous dit, pour qu'à un certain moment, il puisse dire vraiment la vérité. Mais il est 9h du matin. Comment se fait-il que les gens sont déjà sous à 9h du matin? Ce n'est pas possible. Et c'est pour cette raison que Pierre a continué son discours. Et son discours a été, on peut dire, le premier message, le début de l'Église. Repentez-vous, au verset 38. Au verset 41, il nous est même dit que ce jour-là, les gens se sont tellement repentis qu'il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. Alors, on se pose quelques questions. Première question, la Pentecôte. Pente veut dire 50. Et entre Pâques et la Pentecôte, il y a donc 50 jours. Ça, nous le savons. Aujourd'hui, on se sert de ce que l'on appelle le calendrier grégorien qui date à peu près du XVIe siècle. Avant, on se basait surtout sur le calendrier julien qui, lui, datait un petit peu avant Jésus-Christ. Il a été institué par César en 40 et quelques avant Jésus-Christ. Mais comment on détermine aujourd'hui la date de Pâques? Eh bien, la date de Pâques a lieu le premier dimanche après la pleine lune et après le 21 mars. C'est-à-dire qu'après le 21 mars, vous le savez comme moi, la lune monte, enfin ce qu'on appelle, on dit que la lune monte, elle descend, et il y a un moment, on a la pleine lune. Donc elle a lieu le premier dimanche après la pleine lune, et donc après le 21 mars. C'est pour ça que Pâques a lieu entre le 22 mars et le 25 avril. Et ça change d'une année à l'autre parce qu'on le détermine à partir de ça. Ce n'était pas le cas pour les Israélites à l'époque. Suivant, je crois, Lévitique au chapitre 23, Pâques avait lieu le 14 du mois de Nissan, ou Nissan, si vous voulez. Et donc, d'une année à l'autre, le 14 avait lieu la fête de la Pâque, mais c'était parfois ce qu'on appellerait aujourd'hui le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et cela changeait d'une année à l'autre. Et c'est pour ça que Christ a fêté la Pâque à Jérusalem avant sa mort, le vendredi. Il l'a fêté le jeudi avec ses disciples, en tout cas par un repas dont les Israélites aimaient cela. Et Jésus dira, j'ai souhaité vivement avec vous fêter ce jour. Aujourd'hui, c'est facile de connaître la Pentecôte, puisque la Pentecôte a lieu, on a dit, 50 jours après la Pâque. Mais on se pose quand même quelques questions. Pourquoi le lundi de Pâques est férié, déjà? Eh bien, il faut savoir que quand Pâques avait lieu chez les premiers chrétiens, les premiers siècles en tout cas, le lendemain de Pâques, pendant 8 jours, il y avait 8 jours fériés. Donc c'était intéressant, hein, bien sûr, pour ceux qui fêtaient cela, et si aujourd'hui ça existait encore, on serait parfaitement content, parfaitement heureux. Et déjà, dans certains pays, parfois, le Pâques est férié quelques jours avant ou quelques jours après. Mais c'est simplement au temps à l'époque de Napoléon, oui, de Napoléon, du Concordat, que la semaine fériée a été remise en cause. Napoléon et ceux qui étaient avec lui se sont dit, bah, oui, mais une semaine, c'est un petit peu trop. Écoutez, on va supprimer la semaine, mais bon, pour vous faire plaisir, en quelque sorte, on vous accorde le lundi. Et voilà pourquoi le lundi de Pâques est férié. Mais une autre question qui nous vient à l'esprit, Pentecôte. Est-ce que la Pentecôte existait dans l'Ancien Testament? Eh bien, je dirais oui. La Pentecôte existait dans l'Ancien Testament. La première fête, c'est la fête de Pâques. La deuxième fête, c'est la fête des prémices. Et elle a lieu le premier dimanche après la Pâque. Tiens, étonnant, Jésus-Christ est ressuscité ce jour-là. Il est le prémice de la résurrection. Oh, bien sûr, il y a eu d'autres personnes qui sont ressuscitées, mais qui sont mortes après. On pense par exemple à Lazare, qui a été ressuscité par Christ, mais qui est décédé aussi. Christ est le prémice de la résurrection. Il a dit « Je suis la résurrection ». Et 7 semaines plus tard, il y avait la fête des semaines et des moissons. 7 semaines, 50 jours. Aujourd'hui, ça s'appelle, chez le peuple juif en tout cas, Shavuot. On voit dans Lévitique, au chapitre 23, je ne veux pas tout vous lire, mais au verset 15 du chapitre 23, il est dit « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. » J'arrête ici dans Lévitique, chapitre 23, versets 15 et verset 16. Alors on comprend mieux Acte, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est arrivé quand les Juifs fêtaient. Lévitique, chapitre 23, versets 15 et 16. La fête des semaines ou la fête des moissons. Et voilà pourquoi, en quelque sorte, il y avait une multitude qui a accouru. Au verset 8, il nous est dit qu'ils ont entendu parler de leur langue, plusieurs langues, chacun d'où ils venaient, du bassin méditerranéen, des différents endroits. Et donc Pierre a profité de cette occasion pour apporter l'évangile, la puissance de l'évangile. Et il nous est dit au verset 41 que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Je ne sais pas si on peut dire quelle réunion d'évangélisation a eu lieu ce jour-là. 3000 personnes se sont données au Seigneur. 3000 personnes ont été baptisées ce jour-là. Ah, la réunion de baptême! Mes amis, mes frères et sœurs, moi je n'ai jamais assisté à autant de baptêmes, hein, je vous le dis tout de suite. Bah, vous non plus, je ne pense pas. Mais en ce jour-là, 3000 personnes se sont fait baptiser. Je ne sais pas si c'est les apôtres qui ont baptisé. Ça faisait quand même beaucoup par personne, hein. Même si on tient compte de tous les disciples qui étaient 120. Mais, en tout cas, cela fait beaucoup de personnes baptisées par un seul disciple. Je crois qu'il y a peut-être des pasteurs qui souhaiteraient baptiser plusieurs personnes en ce même jour. Mais bon, en tout cas, ce jour-là, il en était en tout cas plusieurs. Et il nous est même dit qu'au verset 47, que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ah, dans ces jours-là, en tout cas, les jours qui ont suivi, il y a eu beaucoup de personnes qui ont accepté Christ, beaucoup de personnes qui se sont joints à l'Église et qui sont devenus chrétiens, qui se sont fait baptiser. En voilà résumé la Pentecôte de nos jours, en tout cas ce qu'elle représente. Bien sûr, pour nous, c'est tous les jours la Pentecôte, c'est tous les jours Pâques, c'est tous les jours Noël. Mais si je vous avais aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, parlé de Noël, et puis à Noël, on aurait parlé de Pâques, et puis à Pâques, on aurait parlé de la Pentecôte, vous m'auriez dit, probablement à juste titre, écoute, tu exagères un petit peu, tu pourrais au moins recentrer la Pentecôte au moment de la Pentecôte, Noël au moment de Noël, et puis Pâques au moment de Pâques. Je me souviens d'un... c'était un couple chrétien qui disait « Ah, on sait déjà le message à la Pentecôte, on sait déjà le message à Pâques, on sait déjà le message à Noël. Vous parlez toujours de la même chose. » Ah ben oui, bien sûr, on parle toujours de la même chose. Mais pour nous, Noël, Pâques ou Pentecôte, ce sont des fêtes qui ont lieu pour nous tous les jours. Tous les jours, on prend conscience de ce que Christ a fait pour nous. Il est venu dans le monde. Il a donné sa vie, sa vie sur terre. Et le Saint-Esprit, il nous l'a envoyé parce qu'il a promis qu'il nous l'enverrait, afin qu'il demeure, l'Écriture nous dit, éternellement avec vous. Je voudrais lire avec vous un passage qui se trouve dans l'Écriture, bien sûr. C'est un passage que Christ a enseigné, a donné en tout cas, a dit à ses apôtres lorsqu'il était avec eux. Et au chapitre 16 de l'Évangile de Jean, c'est probablement à ces passages-là que les apôtres, les disciples ont pensé, ont réfléchi, se sont posé des questions, en tout cas, le jour de la Pentecôte. Au chapitre 16, donc, de Jean, au verset 5, il nous est dit, maintenant, c'est Christ qui parle, hein, il dit, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu ? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de moi ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qu'il est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jean chapitre 16, verset 5 au verset 15. Qu'est-ce que Jésus leur a enseigné? Il leur a dit d'attendre. Mais combien de temps? Les promesses s'accompliraient-elles? Oui, bien sûr, mais quand? Peut-être qu'ils avaient des doutes, en tout cas ils avaient des questions, ça c'est à peu près certain. Eh bien, dans ce passage qui est revenu à leur esprit lorsqu'ils ont vu ce vent impétueux, lorsqu'ils ont entendu ce vent, lorsqu'ils ont vu ces langues de feu qui se sont déposées sur eux, et que Pierre a prononcé de ce premier discours, il y a trois points, à mon avis, dans ce passage de Jean qui sont intéressants pour nous ce matin. Le premier point, c'est Jésus. Jésus qui parle. Ah, les disciples en avaient bien besoin. Et nous aussi, nous en avons bien besoin. Vous allez me dire, mais c'est pourquoi il y a quatre évangiles? Quatre évangiles qui parlent de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a dit. Les quatre évangiles ne sont pas en contradiction, ils sont en confirmation, les uns par rapport aux autres. C'est pourquoi on aime parfois l'évangile de Jean. Parce que l'évangile de Jean nous dit, c'est dans ce passage, dans cet évangile qu'il est dit « Je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, je suis le bon berger ». Mais c'est surtout dans cet évangile qui nous est dit qui il est réellement. Et on a besoin les uns des autres de savoir qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il est pour moi? Qu'est-ce qu'il est? Quelle est l'intimité qui peut exister entre Christ et moi? Dans l'église de Marolles, on a commandé plusieurs évangiles de Jean. Je ne me souviens plus du nombre exactement, mais on devait le partager avec vous en tout cas pendant ce moment de confinement. Mais bon, on a remis un petit peu à plus tard, je pense à la rentrée en tout cas. Ces évangiles de Jean seront à votre disposition et ils permettront en tout cas qu'on puisse le donner à un et aux autres, à nos amis, aux membres de nos familles, à nos collègues de travail, on puisse leur accorder, en tout cas, leur donner un petit évangile de Jean. Vous savez, c'est Calvin qui disait que l'évangile de Jean, c'est la clé qui ouvre la porte à la compréhension des trois autres. Alors, on a besoin de lire, de relire, et de relire de nouveau l'évangile de Jean. Et les paroles de Christ. Car c'est Christ, c'est Jésus qui parle non seulement à ses disciples, mais qui nous parle aussi à nous. Au verset 7 de ce passage, il est dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » Ah, ça a dû être un choc. Je pense, pour les apôtres, d'entendre cela. Il ne faut pas oublier que ça faisait 3 ans qu'ils étaient avec Christ. Ça faisait 3 ans où 24 heures sur 24, Christ était avec eux. Lui, le bon berger. Lui, le Père. Lui qui nourrissait, qui enseignait, qui veillait sur ses apôtres. Beaucoup auraient préféré qu'il reste, ils auraient préféré l'entendre, ils auraient préféré, bien sûr, le toucher, le voir et guérir, comme il le faisait depuis 3 ans. Et ils ne comprenaient, n'ont pas compris que Christ, bien sûr, devait donner sa vie, que Christ devait partir. Mais le Seigneur dira, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Parce que si je m'en vais, le Consolateur viendra et le Consolateur sera avec vous. Aujourd'hui, on est combien ? 7 milliards d'individus sur la surface de la Terre. Pensez un instant, si Christ était resté, il avait le pouvoir de rester. S'il était resté à Jérusalem, avec quelques disciples avec lui. Mais crois que tous les avions du monde aujourd'hui n'auraient pas assez de place pour nous emmener jusqu'à Jérusalem. Il y aurait un problème important, en tout cas, qui s'ouvrirait au monde, en tout cas, si tout le monde voulait voir Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ dira « Aujourd'hui, le Saint-Esprit est auprès de vous et il est aussi en nous. » Il est dit à un autre passage que Christ, je viendrai à vous, je serai en vous. Dans Jean, au chapitre 14, je crois, et oui, au verset 15, alors j'essaye de retrouver, Jésus disait, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. » Verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Ah, oh, ces paroles merveilleuses. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il n'a pas laissé les apôtres, les disciples, au gré du vent ou au gré de la situation de l'époque. Il a fait cette promesse. Je viendrai à vous. Aujourd'hui, si le Saint-Esprit habite en nous, et il habite en nous, Éphésiens chapitre 1er, verset 13, je crois. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Christ habite en nous. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit, et c'est le troisième point que je vais vous laisser, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Verset 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père, le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Lorsque nous rendons témoignage à quelqu'un, lorsque nous parlons de ceci ou de cela, même à travers un culte, à travers un message, nos paroles sont écoutées, nos paroles sont parfois comprises, et qu'on le veuille ou non, on s'attribue bien souvent quelques petits mérites. J'ai bien parlé, et j'ai bien annoncé Jésus-Christ, et j'ai bien parlé de Christ. Si quelqu'un peut vraiment donner sa vie au Christ, c'est un petit peu grâce à moi, parce que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Mais oui, mais c'est pas ce que nous dit l'Écriture. C'est pas du tout ce que nous dit l'Écriture. Non, non, non. L'œuvre, elle vient du Saint-Esprit qui est en nous. Lorsque nous rendons témoignage, maladroitement parfois, lorsque nous parlons de Christ imparfaitement, parfois, nous oublions, nous ne devons pas oublier en tout cas, que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde en ce qui concerne le péché. C'est le Saint-Esprit qui parle de la justice du Père et qui parle aussi du fait que le prince de ce monde est déjà jugé. La parole est efficace. Le Seigneur nous aide à partager et à citer sa parole. Dans Hébreux, au chapitre 4 et au verset 12, il nous est dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moi, et molle et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est efficace. Est-ce que nous avons pris conscience que nous ne sommes simplement entre les mains du Seigneur pour parler de l'Écriture, pour citer l'Écriture, pour parler de Christ, mais que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui convainc le monde qu'il a besoin de Christ. L'œuvre de Dieu est efficace, la parole de Dieu est efficace. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Verset 41, il nous a dit qu'il y a 3000 personnes qui se sont converties. Mais au verset 47, il nous a dit que chaque jour ajoutait le nombre des chrétiens, le nombre d'enfants de Dieu qui se convertissaient. Combien y a-t-il de chrétiens aujourd'hui? Certains ont fait à peu près une analyse en disant que les chrétiens, entre guillemets, évangéliques, sont à peu près 600 millions dans le monde. Peut-être, c'est possible, moi je ne sais pas. En tout cas, depuis la Pentecôte, combien d'hommes et de femmes se sont donnés au Seigneur? Moi, je ne sais pas du tout. Encore moins que ce qui se passe aujourd'hui. Mais il nous est dit au verset 47 de Actes que c'est le Seigneur qui ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour. Et je crois que le véritable comptable de ceux et de celles qui sont réellement sauvés, réellement enfants de Dieu, fils de Dieu, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur le véritable comptable. Combien se sont fait baptiser? Je ne le sais pas. Combien ont accepté Christ? Moi, je ne le sais pas. Mais Christ le sait. Christ le sait. Et il vient habiter dans le cœur, dans la vie, dans la personnalité de l'homme et de la femme qui se donne au Seigneur. C'est le message de la Pentecôte. Le Saint-Esprit. D'ailleurs, lorsque vous lisez les évangiles, vous voyez que parfois, c'est le Père qui envoie, parfois, c'est Jésus qui envoie. Alors la parole de Dieu ne se contredit pas, parce que moi et le Père, Jésus dira, nous sommes un. Nous sommes un. Frères, sœurs, nous voici arrivés à la fin de ce passage. Trois points. Jésus-Christ parle. Jésus dit, il est avantageux. Et le Saint-Esprit agit. C'est lui qui convainc. C'est lui qui parle de justice. C'est lui qui parle de jugement. Alors nous avons, les uns les autres, un encouragement. C'est que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Il nous aide à être des hommes, des femmes, des enfants qui marchent avec lui. Il sait que nous sommes faibles, fragiles, mais lui, et c'est le message de la Pentecôte, il est puissant. Il est, oui, puissant, fort. Il s'est manifesté avec puissance auprès de ceux qui, non seulement étaient dans la chambre haute, mais de ceux et de celles qui étaient présents à Jérusalem. La multitude accourt. Est-ce que nous voulons que la multitude accourt? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Alors faisons confiance à notre Seigneur et soyons prêts, disponibles à être des enfants agréables en toutes circonstances. Amen.